France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Clézel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Les circonvolutions de François Bayrou pour tenter de justifier son idée d'une submersion migratoire appliquée seulement à Mayotte et certains autres départements n'y auront rien changé. L'expression chère au Rassemblement National continue de choquer, notamment à gauche, jusqu'à, on le verra, relancer l'hypothèse d'une éventuelle censure du gouvernement par le Parti Socialiste dès la semaine prochaine. Elisabeth Borne présente aujourd'hui la nouvelle version du programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, un projet contesté par certaines franges conservatrices et qui doit s'appliquer à la rentrée prochaine. On en parlera avec notre invitée aujourd'hui, la pédopsychiatre Gisèle Apter. On se rendra à Bruxelles où la Commission doit présenter aujourd'hui son arsenal législatif pour une meilleure compétitivité. Enfin, la confusion règne décidément aux États-Unis où un tribunal fédéral a réussi hier à suspendre temporairement le gel de milliards de dollars d'aide publique décidée la veille par le président Donald Trump. François Bayrou se serait-il laissé submerger par la rhétorique de l'extrême droite dont le champ lexical pour justifier son idéologie a fini par s'imposer dans le débat public, seule certitude, en évoquant lundi soir à la télévision un sentiment de submersion migratoire. Le premier ministre centriste a choqué la gauche au point de faire courir à nouveau donc le risque d'une possible censure de son gouvernement en cas de recours au 49-3 sur le budget la semaine prochaine. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Hier, les socialistes qui s'étaient dit prêts à participer aux négociations budgétaires ont finalement annulé leur réunion avec le gouvernement censée permettre de trouver un accord de compromis en vue de la commission mixte paritaire fixée à demain.
Et il ne devrait pas y avoir de nouvelles réunions d'ici là, assure un cadre socialiste ce matin. Le Premier ministre épouse la rhétorique de l'extrême droite, poursuit cet élu. C'est un clin d'œil au Rassemblement National et un choix politique majeur. Nous lui avons donné une chance de se rétracter hier à l'Assemblée, il ne l'a pas fait. Ça veut dire que François Bayrou conserve un deuxième fer au feu, il y ménage Marine Le Pen au cas où ça ne marcherait pas avec nous, en conclut ce député. Dans ces conditions, ajoute-t-il, il n'y a aucune raison que nous retournions discuter avec le gouvernement avant la commission mixte paritaire prévue demain. Les socialistes sont donc fâchés, et même amers, car ils étaient tout proches d'un accord de non-censure avec le gouvernement. La réunion d'hier devait régler les derniers ajustements. Alors cela pourrait-il tout remettre en cause et les conduire à finalement voter la motion de censure que déposera immanquablement la France insoumise en début de semaine prochaine ? Le Premier ministre, lui, estime avoir déjà la réponse à cette question. Il est convaincu que les socialistes n'auront pas le choix, car il y a une pression de l'opinion publique, du monde économique et même d'une majorité de l'électorat PS qui appelle ses députés à la responsabilité et à l'adoption d'un budget pour ne pas dégrader un peu plus encore l'état des finances publiques. Beaucoup de socialistes reconnaissent que cette pression existe. Ils entendent le message quand ils retournent le week-end dans leur circonscription. Pour autant, ils sont partagés, tiraillés et très fâchés par l'attitude de François Bayrou à leur égard. À ce stade, on ne sait pas ce qui va se passer, dit-on au PS. Il y aura vraisemblablement de nombreuses réunions et discussions le week-end prochain pour en parler. Jusqu'ici, dans nos rangs, les partisans de la censure étaient minoritaires, explique un député. Désormais, je ne sais pas, je ne sais plus, avoue-t-il. On verra dans les jours qui viennent.
Merci Stéphane Robert.
C'est une dérive extrêmement inquiétante ces dernières années.
L'avertissement est signé ce matin de la procureure générale de Paris après qu'on eut appris hier que le parquet a ouvert une enquête sur des menaces de mort proférées à l'encontre de trois magistrats qui officiaient au procès des assistants parlementaires du Rassemblement National, procès qui s'est tenu à l'automne dernier mais dont on attend encore le jugement des menaces proférées sur Internet, plus exactement sur un site d'extrême droite et qui témoigne, Florence Turme, d'une tendance plus générale aux intimidations contre tous ceux qui exercent aujourd'hui des fonctions d'autorité.
Elle mérite une balle de 9 mm dans la tête. Il faut les trouver, tirer à vue et flamber leur nid douillet. Ces menaces figuraient dans la partie commentaire des publications du site Riposte Laïque, très actif et virulent durant le procès, en octobre et novembre dernier. Des écrits supprimés depuis et dont les enquêteurs vont s'attacher à retrouver les auteurs, d'autant que ces menaces ciblées visaient nommément la présidente du tribunal et les deux procureurs qui ont notamment requis 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen. Elles traduisent aussi une dérive générale très inquiétante, soulignée ce matin Marie-Suzanne Lequeo, la procureure générale de Paris, chez nos confrères de France Inter.
On assiste à une dérive extrêmement inquiétante ces dernières années, c'est-à-dire que tous ceux qui exercent des fonctions d'autorité, vous parlez à l'instant des magistrats, mais je pense aussi aux policiers, aux gendarmes, aux enseignants, sont l'objet de plus en plus de menaces de mort et sont l'objet de propos totalement décomplexés. Ce n'est pas une spécificité de ce procès, c'est une tendance bien plus générale et au demeurant fort inquiétante.
Dans les procès terroristes, les policiers peuvent bénéficier d'un anonymat total pour déposer en visioconférence, visage totalement masqué et sous leur seul matricule. C'est prévu par la loi, mais l'anonymat n'est pas garanti de la même manière par un dispositif légal pour les magistrats. Ceux qui siègent dans les cours d'assises spécialement constituées bénéficient de mesures de protection, mais la plupart du temps, leur nom, parfois leur visage, deviennent publics à travers des articles de presse ou des réseaux sociaux. Quant au procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, le jugement est attendu le 30 mars prochain.
En retrait sur la gouvernance du pays depuis la dissolution de l'Assemblée, Emmanuel Macron semble bien décidé à réinvestir la fonction. Hier déjà, le président s'est invité au Louvre pour y annoncer plusieurs mesures destinées à désengorger et rénover le musée le plus visité au monde. Et puis aujourd'hui, le chef de l'État est attendu dans les Hauts-de-France pour y dresser le bilan de deux plans d'aide d'investissement décidés par l'État en 2018 et 2021. Une manière de démontrer son engagement pour les territoires et sans doute aussi espérer renouer avec l'opinion, lui qui atteint aujourd'hui des records d'impopularité.
Initier les écoliers à la notion de consentement, parler de sexualité ou de discrimination de genre avec les plus grands.
Elisabeth Borne doit présenter aujourd'hui aux organisations syndicales le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, censé s'appliquer à la rentrée prochaine, une version amendée après les critiques avancées sur certaines formulations jugées trop édulcorées inscrites dans le premier projet exposé au printemps dernier. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Parmi tous les amendements donc déposés par les syndicats, plusieurs, Hakim, portent notamment sur la place des parents.
En effet, Thomas, la nouvelle mouture du programme prévoit que les parents d'élèves seront informés de la tenue et du contenu des séances obligatoires. Une manière pour le ministère de l'Éducation de ménager la sensibilité de certaines familles, ce que dénonce Jérôme Fournier, secrétaire national du NCENSA, qui craint que certains élèves ne viendront pas en classe lorsque les questions liées à la sexualité seront abordées.
On ne veut pas que le texte permette que le rôle des parents puisse se substituer au rôle de l'école. Et pour nous, il y a ce risque-là si jamais le texte était porté en justice. Donc on veut s'affranchir de ce risque-là. De la même manière qu'il y a une phrase qui demande à ce que le contenu des séances et les dates soient données à l'avance aux parents. Et on craint que ça provoque soit des absences des enfants, soit des manifestations comme certaines associations sont capables de le faire, et c'était le cas notamment il y a 10 ans au moment des ABCD de l'égalité. Donc on veut surtout pas revenir à ce genre de situation.
Les syndicats s'opposent également à certaines formulations jugées trop édulcorées. Par exemple, dans le premier degré, hein, il est hors de question que la question, notamment, soit abordée par rapport à ce qui concerne, par exemple, les parties du corps. On ne pourra pas parler des parties intimes, mais seulement citer les différentes parties anatomiques du corps. Enfin, rappelons qu'au premier degré, seule la vie affective et relationnelle sera abordée. Quant à la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle ne sera évoquée qu'à partir du collège et au lycée.
Merci Hakim Kasmi. Pour continuer d'évoquer ce programme et en particulier comment il peut aider à mieux venir en aide aux enfants victimes de violences, invitée de la rédaction Gisèle Apter, pédopsychiatre, chef du service de pédopsychiatrie au groupe hospitalier du Havre. Bonjour madame.
Bonjour.
Dans son volet, donc à destination des plus jeunes enfants, ce programme prévoit d'aborder dès la maternelle les questions liées à la connaissance du corps, on vient de l'évoquer, mais aussi comment identifier les adultes dignes de confiance, distinguer un secret que l'on peut garder pour soi d'une situation de danger. Comment toutes ces questions liées à la vie intime se manifestent chez les enfants dans leurs premières années de vie ?
Alors, j'entendais votre présentation d'une aide à l'école pour pouvoir permettre aux tout jeunes enfants de connaître leur corps et de pouvoir aussi faire connaître un tout petit peu ce qui se passe quand ils sont en contact non seulement d'autres adultes, mais et des autres enfants. Et évidemment, plus on est jeune et plus deux choses caractérisent les enfants jeunes, c'est que énormément de choses passent par le jeu et non pas seulement par la parole. On ne raconte pas des choses à 3 ans ou 4 ans ou 5 ans comme on les raconte ensuite au collège ou au lycée. Et également, on a appris en fait essentiellement à se confier ou à ne pas se confier aux adultes en fonction de ce que l'on a vécu avant d'être à l'école, c'est-à-dire en général avec sa famille. Alors, ce qui est compliqué et difficile, évidemment, dans l'idée que ça pourrait servir de repérage plus que de prévention, c'est que, évidemment, lorsque malheureusement les enfants sont victimes, c'est majoritairement dans leur milieu familial ou familial élargi, ce qui est toujours choquant et difficile à accepter, et que il y a déjà besoin, lorsqu'on suspecte ce genre de choses, de pouvoir s'adresser à des professionnels. Il me semble que dans ce que l'on peut retrouver, d'ailleurs, que tous les auditeurs peuvent retrouver sur ce qui est prévu dans le projet, c'est un programme de prévention dont nous avons tous beaucoup besoin, et qu'ensuite, pour les professionnels et notamment pour les enseignants, il s'agit d'être formés au moins à se dire que s'il y a des choses très différentes, des changements de comportement chez les enfants, il faut pouvoir s'adresser à un professionnel qui connaît ce genre de choses.
À ce titre, justement, quels sont les signaux auxquels les enseignants doivent être attentifs pour repérer qu'un enfant est susceptible de subir des violences sexuelles?
Les premiers signaux que les enfants peuvent montrer sont très discrets et assez peu spécifiques. Lorsqu'il y a des nouvelles violences, c'est les changements de comportement. C'est-à-dire qu'un enfant qui change brutalement de comportement, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est pas obligatoirement une violence, mais c'est quelque chose que l'enseignant, en plus, est à même de se dire, ben voilà, à la rentrée, il était comme ci, comme ça, et puis là, tout d'un coup, il y a des choses, il n'est plus comme avant. C'est un signal qu'il s'est passé quelque chose qui a tellement préoccupé l'enfant que son comportement a changé. Lorsque l'enfant a malheureusement subit constamment des violences, pas obligatoirement sexuelles, mais il s'est adapté, si on peut dire, enfin en tout cas, évidemment pas positivement, hein, mais il va être très difficile de repérer des choses. Et donc c'est éventuellement parce qu'il va pouvoir constater, peut-être grâce à ces programmes, que la majorité des autres enfants ne sont pas comme lui, que des petits signaux, souvent légers, dans le jeu, surtout dans le jeu, vont attirer l'attention de l'enseignant.
De l'enseignant. Et justement, lorsqu'un enseignant soupçonne donc un cas de maltraitance, comment est-ce qu'il doit l'appréhender ?
Alors, la première chose qui est certaine, que ce soit pour les enseignants ou pour tout autre professionnel de l'enfance, hein, l'après-scolaire, la garderie, etc., c'est qu'on ne doit jamais rester seul avec ce genre de doute. Il faut pouvoir en parler à quelqu'un d'autre avec qui on travaille. En général, ça commence par là. L'infirmière scolaire, là, c'est quand il y en a. Le médecin scolaire, s'il y en a encore, parce qu'on n'a plus beaucoup de médecins scolaires. Éventuellement, un collègue qui a déjà été confronté à ça. Et sinon, évidemment, de s'en référer au système sanitaire qui est maintenant de plus en plus équipé régionalement avec des unités d'accueil d'enfants en danger, à qui on peut toujours demander conseil sans obligatoirement adresser l'enfant. Et sinon, on peut aussi, dans le doute, appeler le 119.
C'est bien compris. Merci Gisèle Apter, donc chef du service de pédopsychiatrie au groupe hospitalier du Havre, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Midi et 43 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Plus de 100 morts et près d'un millier de blessés, un déluge de feu, trois jours d'intenses combats au total qui ont laissé des rues jonchées de cadavres. Depuis hier soir, le sort de Goma, capitale régionale de l'Est de la République démocratique du Congo, semble scellé. Les combattants rebelles du M23, soutenus par des troupes rwandaises, occupent désormais la quasi-totalité du centre de la ville et des faubourgs. Ils contrôlent l'aéroport. Le siège du gouvernement provincial a lui aussi été pris d'assaut, de même que l'antenne régionale de la télévision nationale congolaise. Quant aux soldats congolais, quand ils ne se sont pas prestamment débarrassés de leur uniforme pour éviter d'être capturés, ils ont déjà pris la fuite, comme d'ailleurs nombre de civils. Hier, la crise s'est même soudain étendue jusque dans la capitale, Kinshasa, où des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, mais aussi de la France, la Belgique, les États-Unis, autant de pays critiqués pour leur inaction dans ce conflit régional. Car voilà plus de 30 ans en réalité que l'Est de la RDC se trouve déchiré par les guerres. Et c'est donc pour tenter de mettre fin à cette crise chronique qu'un sommet exceptionnel était prévu aujourd'hui à Nairobi, en présence des deux acteurs principaux du conflit, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Deux hommes aux relations exécrables étaient, puisque ce matin, le président congolais a donc finalement fait savoir qu'il ne participerait pas à ce sommet.
Pour sa toute première décision depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, la réserve fédérale américaine devrait, a priori, laisser ses taux inchangés aujourd'hui.
Oui, c'est du moins ce qu'anticipent tous les acteurs de la finance, et pour cause, la bonne santé de l'économie comme du marché de l'emploi aux États-Unis sont autant de raisons aujourd'hui pour patienter, sauf que l'ombre du nouveau président bien déterminé à se mêler de la politique monétaire et qui plaide, lui, pour une nouvelle baisse immédiate des taux d'intérêt planera certainement au-dessus de l'exercice. En attendant, hier, un tribunal a, lui, suspendu la décision de la nouvelle administration de geler des centaines de milliards de dollars d'aide fédérale, une décision in extremis prise quelques minutes seulement avant son entrée en vigueur et qui vient témoigner, Valérie Crova, de la panique et même de la stupéfaction qui a saisi les démocrates et plusieurs groupes de défense face à cette annonce de Donald Trump qui, le cas échéant, aurait affecté des milliers de programmes de subventions.
L'annonce du gel des subventions a semé la confusion parmi les responsables des agences et des organisations qui dépendent du soutien fédéral, en particulier les écoles et les hôpitaux. Le portail de Medicare, l'assurance santé pour les plus pauvres, a notamment été interrompu dans plusieurs États avant qu'il ne soit de nouveau accessible. La décision de Donald Trump a été publiée en même temps qu'une liste de 2600 programmes qui couvrent pratiquement toutes les initiatives fédérales. Cette liste recense les fonds qui aident des millions d'Américains sous forme de subventions. Cela va des programmes de recherche agricole aux programmes d'éducation en matière d'alimentation et de nutrition, d'aide aux emprunteurs de prêts agricoles ou encore de subventions aux établissements d'accueil des Hispaniques. La liste est longue et diverse. L'administration Trump veut vérifier si ces programmes d'aide sont en adéquation avec les priorités que s'est fixé le 47e président américain. En clair, qu'il ne favorise pas, je cite, l'équité marxiste, l'idéologie transgenre et les politiques du Green New Deal, chères aux démocrates et destinées à lutter contre le changement climatique et ses conséquences. Pour l'heure, la décision du juge du district de Columbia dans l'état de Washington DC bloque la procédure au niveau fédéral. Le tribunal réexaminera la question lundi prochain.
Et c'est encore sous la pression des velléités tonitruantes de Donald Trump que Bruxelles doit dévoiler aujourd'hui sa feuille de route pour établir une meilleure compétitivité. Après l'accent mis ces dernières années sur l'environnement, priorité devrait être donnée cette fois-ci aux entreprises via notamment un allègement du fardeau administratif, un choc de simplification en somme censé ne pas toucher aux objectifs environnementaux, même si en l'occurrence les écologistes craignent un détricotage des lois climatiques pour empêcher les entreprises de mettre leur menace de délocalisation à exécution. Les précisions depuis Bruxelles de Fabien Cazot.
La simplification administrative devient aux yeux de la Commission européenne un enjeu de compétitivité face à l'Amérique de Donald Trump qui promet de simplifier drastiquement la vie des entreprises. Au cœur des inquiétudes, les normes sociales et environnementales, dont certaines figurent dans le Green Deal conclu lors de la précédente mandature. Pour le moment, la Commission se place sur un terrain économique, l'objectif étant d'éviter aux entreprises d'investir trop lourdement dans les tâches administratives pour se concentrer sur l'investissement dans leurs outils de production. Le détail des mesures de simplification sera présenté dans un mois. mois. L'exécutif européen se s'est attendu au tournant. Le devoir de vigilance vis-à-vis des sous-traitants de multinationales sera-t-il concerné? Quid du reporting extra-financier qui impose aux entreprises de devoir déclarer leur impact social et environnemental? Face aux inquiétudes, la Commission répond que les objectifs fondamentaux du Green Deal, au premier rang desquels la neutralité carbone de l'Union européenne, ne sont pas remis en cause et seront même un vecteur d'investissement, donc de croissance économique.
Après Eowyn, après Arminia, la dépression Ivo apportera à son tour aujourd'hui son lot de fortes pluies sur l'Hexagone, renforçant le niveau des inondations dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan, maintenu en vigilance rouge au cru. La Sarthe rejoint par ailleurs les départements du Calvados, Maine-et-Loire, Mayenne et de l'Orne, déjà en vigilance orange. En clair, de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, les pluies donc domineront encore largement cet après-midi. Temps sec en revanche à l'est et même agréable autour de la Méditerranée. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.